Chères auditrices, chers auditeurs, ravis de vous retrouver à l'écoute et heureux, oui heureux, de partager ces moments avec vous. Comptant toujours sur la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, nous poursuivons aujourd'hui la réflexion commencée le mois passé, dans laquelle nous avons posé la question « Peut-on manger, sous-entendu de tout, ou ne pas manger de tout ?» J'ouvre une petite parenthèse. Cette étude est disponible sur le site web de la radio, rubrique « Texte-message », auteur Elios Miquel, émission du troisième jeudi du mois. La réflexion avait été suscitée par le fait divers que voici. Un jeune chrétien évangélique avait été apostrophé par un autre. Il ne fréquentait pas la même chapelle, qui lui reprochait de ne pas observer toute la parole de Dieu s'il mangeait du porc. Rien de surprenant à cela. Pourquoi ? Parce que l'Église de Jésus-Christ est composée, rappelons-le, de tous ceux qui sont sauvés. Nous trouvons des croyants issus de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Comme cela est précisé dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7 et au verset 9. À l'évidence donc, sont rassemblées des cultures et des coutumes différentes. De plus, sur le plan de la foi, il y a des niveaux de maturité différents. Les uns, encore enfants dans la foi, ont besoin de lait spirituel, tandis que d'autres, parvenus à la maturité d'adultes spirituels, ont besoin de nourriture solide. Le mois passé, nous avons conclu ceci. La doctrine chrétienne préconise la liberté de ne pas manger de porc. Je dis bien liberté de ne pas manger de porc et de tout ce qui entre dans la même pensée. Ne pas manger dans le but de respecter la conviction de mon prochain et sa liberté. Je lis 1 Corinthiens chapitre 8 verset 13, Bible français courant. C'est pourquoi, si un aliment entraîne mon frère dans l'erreur, je ne mangerai plus jamais de viande, afin de ne pas égarer mon frère. Et je vous invite à lire en entier Romains chapitre 14. L'apôtre Paul y explicite ses préceptes de tolérance et de liberté. Celui qui mange de tout, verset 2, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Au chapitre 14 et au verset 6 des Romains, Jésus a dit, je cite, « Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. » Matthieu chapitre 22, verset 40. Le premier et le plus grand nous oriente vers un culte total à Dieu, c'est-à-dire lui donner la première place dans notre vie. Aimer son prochain implique ne lui nuire aucunement, c'est-à-dire ni prendre sa vie, ni sa femme ou son mari, ni son bien, et respecter sa personne et ses convictions. À l'occasion de polémiques sur le fait de manger sans se laver les mains, Jésus a déclaré « Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Marc chapitre 7, verset 15. Si nous cherchons à plaire à Dieu avec la pensée d'être irréprochable à l'égard de la justice de la loi, Philippiens chapitre 3, verset 6, nous sommes plus que dans une impasse. Nous restons sous la condamnation, c'est-à-dire déchus de la grâce. Il en est de la piété comme d'un rameur assis dans une barque. S'il veut progresser, il doit d'abord décrocher la mare. On peut s'efforcer d'observer les extérieurs. Si le cœur n'est pas circoncis, voir Romains chapitre 2, verset 29, Galates chapitre 6, verset 15, tous les efforts sont réduits à néant. Nous entrons ce jour dans une autre facette de cette réflexion, après manger ou ne pas manger de tout, nous parlons du fait de ne pas manger du tout, c'est-à-dire de jeûner. Le jeûne est un sujet qui mérite toute notre attention, car une compréhension erronée pourrait en faire une grève de la faim sans aucun effet aux yeux de Dieu. Les nutritionnistes préconisent des jeûnes diététiques. Nul doute que, bien encadrés, ces exercices apportent à l'organisme des effets positifs. Toutefois, cela n'est pas l'objet de notre étude. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 11, l'apôtre Paul évoque tout ce qu'il a subi, supporté, pour le service de l'Évangile et il précise, je cite le verset 28, « J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. » Paul a été exposé. Cela venait-il de son choix ou plutôt d'une contrainte imposée par la situation? Question. Que nous enseigne l'Écriture sur la pratique du jeûne dans l'exercice de la piété? Réponse. Je lis Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites. Ils changent de visage pour que tout le monde voie qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume ta tête, afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là dans le secret le saura. Et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Pratiqué d'une manière individuelle, le jeûne est une attitude empreinte de discrétion. Inutile de le claironner à la manière attribuée par Jésus aux pharisiens de la parabole, priant dans le temple et méprisant le pauvre pécheur qui n'osait pas lever la tête vers le ciel. Le jeûne était aussi pratiqué collectivement, c'est-à-dire que plusieurs, parfois tout le peuple, se regroupaient et s'abstenait manger tout au long de la durée du rassemblement, ou séparément, mais de concert avec les autres. Et c'est ainsi qu'un jour, les disciples de Jean-Baptiste sont venus interroger Jésus avec comme une sorte d'incompréhension. Je cite, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne le font pas ?» Réponse de Jésus, pensez-vous que les invités d'une noce peuvent être tristes pendant que le marié est avec eux? Bien sûr que non. Mais le temps viendra où le marié leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. Le jeûne est un moyen de chercher la face de Dieu, non pas un moyen de pression sur lui, comme pour lui arracher quelque chose, mais bien au contraire, comme un temps mis à part pour rester en sa présence. Et là, rester à son écoute. C'est cela qui est relaté concernant l'église d'Antioche. Je lis Actes chapitre 13, versets 2 et 3. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Les contemporains du prophète Jérémie ont été conduits dans une impasse par des prophètes auxquels Dieu n'avait pas parlé. Aussi Dieu précise à son serviteur Jérémie, je cite, « Même s'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. » À l'intention de ceux qui se croyaient justes, Jésus a parlé dans une parabole de deux hommes qui sont allés prier ensemble au temple, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien a mis en avant toute sa pratique religieuse et entre autres, je cite, « Je jeûne deux fois, je jeûne 2 jours par semaine. » Jésus affirme que cet homme n'a pas été entendu au ciel. Le collecteur d'impôts, lui, humblement a dit, je cite, « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » C'est ce pécheur-là qui a été entendu et exaucé. Alléluia ! Au psaume 35 et au verset 13, David dira ceci concernant ceux qui lui veulent du mal. Je cite, « Moi, quand ils étaient malades, je mettais une tenue de deuil. J'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur la poitrine. » Après, une page musicale, nous verrons quelques précisions sur, entre guillemets, l'aspect technique du jeûne.
Hakreni el veda levadi becha neini veda sarapai re'im derech otzev bi im derech otzev bi unecheni bader Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie.
Concernant le fait de ne pas manger du tout, c'est-à-dire de jeûner, la question du temps, espaçant les prises de nourriture, se pose. Un jour, lors d'un contrôle d'alcoolémie de tous les véhicules au bord de la route, j'ai dit au gendarme qui me tendait l'alcotest, « Vous savez, entre deux verres, je ne bois pas. » Il n'a pas apprécié mon humour et a crié « Soufflez !» Pour ce qui est de la nourriture, il est déconseillé de grignoter entre les repas afin d'éviter des surcharges pondérales. Les collations trop riches en calories sont à proscrire, nous dit-on. La question qui se pose est la suivante. Combien de temps doit-il passer deux prises de nourriture pour être qualifié de jeûne? Et question annexe, si on peut dire. Peut-on boire pendant le temps de jeûne? Réponse. Je lis Exode chapitre 34, verset 28. Moïse demeura là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tablettes les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. Je lis encore Esther chapitre 4, verset 15 et 16. Esther fit répondre à Mardoché, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je respecterai un tel jeûne avec mes servantes et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi et, si je dois mourir, je mourrai. » Et je lis encore Esdras, chapitre 10, verset 6. Puis Esdras quitta le devant de la maison de Dieu et se rendit dans la chambre de Joshanan, fils d'Eliashib. Il resta là sans manger ni boire, parce qu'il était en deuil à cause de l'infidélité des exilés. Pour ce qui concerne Jésus et son temps de jeûne au désert, rien n'est écrit à propos de boire ou non. Je lis Luc, chapitre 4, verset 2. Il y fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, quand ils furent passés, il eut faim. Cet épisode est la seule mention du jeûne dans la vie de Jésus. Pour souligner le fait que les chefs religieux en particulier n'ont pas compris le message de Dieu délivré par ses envoyés, Jésus dira, je cite, « En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain, ne boit pas de vin, et vous dites, il est possédé d'un esprit mauvais. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et vous dites, voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin, qui est ami des collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation. » L'important, dans le jeûne, ce n'est pas le fait de s'abstenir de nourriture. L'important, c'est la démarche du cœur qui s'humilie, qui cherche Dieu et se laisse imprégner de sa présence. Car, comme dit en introduction, une compréhension erronée pourrait en faire une grève de la faim, sans aucun effet aux yeux de Dieu. Voici ce que le prophète Ésaïe dit. Je cite, chapitre 58, versets 5 à 7. « Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté, dénouez les liens de l'esclavage, renvoyez libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain, sans aller jusqu'à dire que le jeûne que Dieu agrée, c'est le fait de manger avec les indigents et les autres affamés. Ésaïe souligne que Dieu regarde aux dispositions du cœur et non à un estomac vide. Jésus l'a dit, je cite, « Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. » C'est bien cela que le prophète Joël avait souligné. Je le cite, Joël chapitre 2, verset 12, « Il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez et suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. C'est votre cœur qu'il faut changer. » Et comme un écho, aujourd'hui, retentit un appel semblable. Car c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le moment favorable. Bien-aimé, tourne ton cœur vers le Seigneur. Et si tu as besoin de lui, demande pardon. Fais-le librement. Le Seigneur a ses regards fixés sur toi et il est attentif à tes paroles. Nous écoutons une nouvelle page musicale avant d'aborder un point très important puisque, s'il est mal compris et surtout, s'il est mal mis en œuvre, il peut avoir une conséquence dramatique, car cela peut aller jusqu'à mort d'homme, en l'occurrence celle d'une fillette de 3 ans. En poursuivant notre réflexion à propos du jeûne, je suis bouleversé au souvenir de ce drame qui nous avait touchés de près. Une fillette âgée seulement de 3 ans et demi était décédée suite au fait que sa mère l'avait privée de nourriture pendant une 60aine de jours. Drame incompréhensible dont les médias s'étaient fait l'écho, impliquant, à tort, l'Église évangélique et deux membres qui s'étaient retrouvés au cœur du drame, appelés par la mère, celle-ci prenant à moitié conscience, hélas trop tard, des conséquences de son acte. Selon une célèbre maxime, ce qui va sans dire, va mieux en le disant. Alors oui, disons-le, l'Église évangélique qui s'y concernait ne fait jamais jeûner les enfants. Lorsque la justice eut prononcé le non-lieu à l'égard des deux personnes emprisonnées pour non-assistance à personne en danger, aucun média n'a jugé convenable d'en faire état et aucune indemnisation ne leur a été donnée pour le préjudice subi. Quant à la mère, elle a été déclarée irresponsable suite à une expertise psychiatrique. Le point que je veux examiner est le suivant. Relatif au monde des esprits. Je lis Matthieu chapitre 17, verset 21. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Les Écritures nous apprennent qu'il y a un monde invisible, celui des esprits. Et pour le combattre, il faut des armes spirituelles. Pour la bonne compréhension de ce texte de Matthieu 17, verset 21, comme d'ailleurs pour tout texte de l'Écriture, il est indispensable de considérer le contexte. En présence de Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, Jésus vient d'être transfiguré et a reçu l'approbation du Père. Je lis Matthieu chapitre 17, verset 5. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Écoutez-le. Pierre, émerveillé, veut rester sur place. Jésus, quant à lui, sait qu'il faut aller ailleurs pour poursuivre sa mission. Et dès le retour dans la plaine, il retrouve les autres disciples, la foule et un père désespéré. Celui-ci s'agenouille aux pieds de Jésus et dit, je cite, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. » Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Réponse de Jésus, je cite, « Génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus exprime-t-il de la lassitude, de la déception? Dans le temps de ma jeunesse, j'ai fait des cours bibliques par correspondance. Ces cours sont échelonnés sur 3 ans, avec un rythme mensuel portant sur 4 questions à traiter. L'étudiant creuse dans sa Bible et propose des réponses. Le correcteur redresse ce qui doit l'être, et un corrigé type est fourni en plus. Concernant ce passage de l'Écriture, j'avais demandé au pasteur Mario Eschler, ceci. Quand Jésus dit « génération incrédule et perverse », de qui parle-t-il? Est-ce du père de l'enfant, de la foule ou des disciples? Réponse de mon mentor, et si c'était tout simplement de la génération à laquelle appartient la race humaine? Et les générations se suivaient, le cœur de l'homme est toujours le même. Alors Jésus menace le démon qui sort de l'enfant et l'enfant est guéri. En privé, les disciples demandent à Jésus, je cite, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Réponse de Jésus, « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Quelle est donc cette sorte de démon ? S'agit-il d'un esprit très puissant, un haut gradé dans la hiérarchie de ceux qui ont suivi Lucifer dans sa révolte contre Dieu ? Ou bien, tout simplement, comme le contexte le souligne, s'agit-il d'une question de foi touchant les disciples et expliquant leur échec ? Jésus a autorité sur tous les démons. Et à la croix, il a triomphé de, je cite, « des autorités et des pouvoirs spirituels ». Ils ont été dépouillés de leur pouvoir, c'est-à-dire désarmés. Ce qui fait notre force, c'est le nom de Jésus. Et précisons-le, le nom de Jésus, qui n'a rien de commun avec la formule « Sésame, ouvre-toi », utilisée par Ali Baba dans le conte des mille et une nuits. Pour ne l'avoir pas compris, certains exorcistes ambulants ont suivi une cuisante correction. Ils disaient aux esprits mauvais, je cite, « Je vous ordonne de sortir au nom de ce Jésus que Paul prêche. » Qu'est-il advenu ? Je cite, Actes chapitre 19, 15, l'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. C'est la foi en Jésus qui rend capable de faire face à toutes les situations. Avant son ascension, c'est-à-dire son retour vers la gloire qu'il avait quittée, en naissant comme un simple homme, Jésus a donné à ses disciples pendant 40 jours maintes preuves de sa résurrection, et il les a envoyés proclamer la bonne nouvelle dans le monde entier. Voici ce que Jésus a déclaré à ce moment-là. Je cite Marc chapitre 16, verset 16. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et Jésus ajoute ceci. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, ils pourront parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Jésus a bien dit, je cite, « ceux qui auront cru », c'est-à-dire ceux qui auront confessé son nom et reçu le salut. Cela concerne donc tout enfant de Dieu. L'autorité est dans le nom, et la foi en ce nom met cette autorité en œuvre, comme l'uniforme du gendarme rend capable celui qui le porte d'arrêter un véhicule qui vient au-devant de lui. Tous ceux qui se seront revêtus de tout ce que nous offre Jésus-Christ le Seigneur ont cette capacité d'exercer l'autorité de Jésus. Dans Actes chapitre 3, nous avons le témoignage suivant. À l'entrée du temple, Pierre et Jean, venus pour prier, sont sollicités par un mendiant infirme depuis sa naissance et âgé de plus de 40 ans. Pierre lui dit, je cite, « Regarde-nous !» Et l'homme s'attend à recevoir quelque chose. Et Pierre, d'ajouter, je cite à nouveau, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » La foule constate le miracle, ce qui les remplit de stupeur et d'étonnement. Pierre est contraint de leur expliquer la situation. Je le cite, Actes chapitre 3, verset 12 et suivant. « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé ? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? » Et Pierre, rendant témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus, conclut son explication en ces termes, je cite, « C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Voilà qui est clair. » pas de pouvoir personnel chez Pierre. Aucun magnétisme ou fluide n'émane de lui. Le miracle ne découle pas non plus de sa piété, c'est-à-dire de son amour et de son obéissance à Dieu. C'est tout simplement la foi en Jésus qui a donné au boiteux la guérison. Voici quelques conseils pratiques tirés de l'étude donnée sur le jeûne par le couple pastoral Éric et Rachel Dufour. Je cite « Avant de commencer le jeûne, sous-entendu s'il va au-delà d'une journée, il est bon de fixer une limite dans le temps. Il est important de, entre guillemets, nourrir ce moment avec la prière et la lecture de textes bibliques. Celui qui jeûne va se préoccuper davantage de celui qui bénit que de la bénédiction elle-même. Il est conseillé de commencer par de courtes durées. Prendre soin de se préparer en réduisant l'alimentation les jours précédents. Et il y a aussi des conseils d'hygiène à suivre pendant ce temps de jeûne tels bien se brosser les dents et la langue, ainsi que s'hydrater en prenant des douches. Ensuite, des conseils relatifs à la reprise alimentaire sont également donnés. Fin de référence. Le jeûne participe à l'exercice de la piété. Redisons-le, l'objectif premier du jeûne, c'est une mise à part d'un temps consacré à chercher une communion plus profonde avec notre Père Céleste. Et dans ce temps, nous sommes à son écoute et nous le prions. Comme cela a été déjà souligné en mentionnant la durée de ce temps, nous le prions pour obtenir un secours, en l'occurrence contre un projet de génocide dans le cas de la reine Esther. Nous le prions pour une protection dans les grands voyages, comme a pu le faire Esdras, je le cite, « J'aurais eu honte de demander au roi de nous fournir une escorte de soldats et de cavaliers pour nous protéger en cours de route contre nos ennemis. En effet, nous lui avions affirmé que notre Dieu étend sa main protectrice sur tous ses fidèles. Nous avons donc jeûné, nous avons demandé à notre Dieu de nous protéger et il a exaucé notre prière. Nous avons aussi l'exemple de David qui jeûne et prie en faveur de la guérison de ceux qui lui veulent du mal. Et il n'y a pas à en douter, le Saint-Esprit saura inspirer à notre cœur des sujets d'intercession pour lesquels Dieu attend la prière d'intercesseur, afin d'agir en faveur du pays et donc de ses habitants. C'est la situation inverse de celle que le prophète Ézéchiel dénonce de la part de Dieu. Je cite Ézéchiel chapitre 22 verset 30, Bible français courant. J'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte ou prêt à se tenir sur la brèche des murailles pour défendre le pays et m'empêcher de le détruire. Mais je n'ai trouvé personne. Pour servir le Seigneur, pour être utile et efficace dans le service, il est positif de jeûner. Le jeûne participe à l'exercice de la piété. Comme l'a écrit l'apôtre Paul, je cite, l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Jésus a dit, je cite, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Salomon a souligné cette vérité dans un psaume. Je lis psaume 127, versets 1 et 2, Bible français courant. « Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. C'est en vain, vous aussi, que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous peinez à gagner votre pain. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. » Conclusion, approfondissons notre communion avec le Seigneur et ayons foi en lui. Gardons-nous de penser un seul instant que le jeûne soit méritoire et qu'en mortifiant notre chair, c'est-à-dire en affligeant notre corps par des privations volontaires, nous allons obtenir du Seigneur. Nous pourrions nous lever tôt et nous coucher tard en vain. Bien-aimés, je vous laisse avec cette parole de Salomon. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Amen.